Voici votre émission Antiquissimo.
Dédiée, comme son nom l'indique,
à l'Antiquité.
Archéologie.
Reconstitution.
Histoire.
Fiction.
Livre. Et film.
L'Antiquité avec un grand A.
L'Antiquité vivante.
L'Antiquité polymorphe qui nous unit tous.
Alors, Antiquissimo sur Radio Alliance Plus, et je suis avec Marc Jaillou, un ami, un talentueux dessinateur que nous avons coutume de rencontrer sur les ondes assez souvent, puisqu'il est l'auteur de beaucoup d'albums que nous avons appréciés dans l'émission consacrée à l'Antiquité. Bonjour Marc.
Bonjour Antiquissimo.
Alors, c'est un dessinateur français, il faut le souligner, et je regardais un petit peu les dates. 2005, le moment où vous avez collaboré dans l'atelier de Gilles Chaillet avec ce monde de la BD et vos entrées dans l'univers de Jacques Martin. Et 2025, ben, ça fait 20 ans quand même.
Oui, tout à fait, le temps passe, oui. Heureusement que les héros ne vieillissent pas, mais c'est vrai que le temps passe.
Alors, en effet, vous avez commencé, mais nous l'avions déjà plusieurs fois rappelé, donc on ne va pas rentrer à nouveau dans cet historique, mais vous avez d'abord travaillé avec Gilles Chaillet et vous avez, dans la dernière prophétie, vous avez redonné vie à Orion en 2011, puis ensuite, on vous a confié le personnage d'Alix.
Tout à fait, toutes les choses se sont faites un petit peu naturellement. Je n'avais pas du tout l'intention de reprendre la série Alix initialement. Mais par contre, c'est vrai que Gilles Chaillet cherchait quelqu'un pour l'assister pour des problèmes qu'il avait à la main. Et donc, je l'ai assisté à l'ancrage sur le tome 4 de la dernière prophétie. Et suite à ce tome 4 de la dernière prophétie, j'étais allé en Grèce où j'ai visité un sanctuaire qui s'appelle le Nécromantéion, l'oracle des morts, et ce sanctuaire m'a donné envie de créer ma propre histoire, puisque on crée les planches de quelqu'un, c'est une chose, mais les concevoir de A à Z, c'est autre chose. Et donc j'ai proposé au comité Martin, puisque j'avais la chance d'aller voir Jacques Martin quelques fois pour lui montrer un petit peu mon travail, et j'ai proposé donc le scénario d'Orion les oracles, puisque cette série était en berne depuis 10 ans. Donc j'ai proposé le scénario des oracles que j'ai dessiné, les couleurs étaient de Corinne Billon, et suite au succès critique très, très positif de cet album, le comité Martin m'a proposé de reprendre le personnage d'Alix, et dont c'est le 7e album qui vient de sortir, qui s'appelle Le Royaume Interdit, le tome 44.
Alors oui, que de chemins parcourus et que d'Alix qui ont eu un succès énorme, ne serait-ce qu'à Nîmes en 2018, où vous étiez venu recevoir le prix de la BD antiquisante pour le Serment du Gladiateur. Donc, entre-temps, il y a eu beaucoup d'albums et je me souviens très nettement de la queue immense de gens qui attendaient pour faire signer l'album et la pile d'albums qui diminuait à toute allure.
Oui, j'ai eu cette chance, effectivement. Je me rappelle aussi ce jeune lecteur, qui s'est mis à pleurer parce que je ne pouvais pas lui faire sa dédicace. Et donc, j'avais exceptionnellement fait une dédicace pour qu'il puisse partir, parce qu'il n'avait pas beaucoup de temps. Et voilà, ses parents étaient rassurés. Donc, c'est un grand moment. Et puis, j'avais aussi, ce prix m'avait été remis par le regretté Jean-Claude Mézières aussi. Donc, c'était quand même, c'est vrai que c'est des moments assez forts.
Assez fort. Alors, je signale aux auditeurs que sur le podcast, une des images que j'ai choisies représente Marc en signature avec ce jeune Lucas et son frère et sa maman qui avaient tant pleuré après cette dédicace. Donc ça, ce sont des moments émouvants. Moments émouvants aussi, cette synergie que j'ai remarquée, ce hasard, je ne sais pas comment il faut dire les choses. Lorsque vous avez publié Le bouclier d'Achille, je m'en mêle les pinceaux, alors qu'au Musée de la Romanité, avait lieu aussi une exposition sur Achille, comme si vous aviez eu quelques étranges connexions. En tout cas, votre goût pour l'Antiquité et l'histoire, on n'a plus à le démontrer, et votre envie parfois de faire des voyages pour fouiller tout le background et avoir la possibilité de faire des planches avec des décors panoramiques assez extraordinaires.
C'est vrai que généralement, j'essaye d'envoyer Alix et de proposer des histoires inédites, c'est-à-dire comme Alix était partie lors de la dernière conquête en Afghanistan sur les traces du tombeau d'Alexandre le Grand, dans le tome de Britannia, il met pour la première fois les pieds donc sur cette île. J'avais décidé de faire aussi un album sur les gladiateurs, puisque c'était une thématique qui avait été à peine effleurée par Jacques Martin, même s'il avait fait des superbes planches. Et puis ces planches-là aussi étaient un petit peu datées en termes d'archéologie, puisqu'elles s'inspiraient des tableaux de Jérôme. Donc on a essayé de refaire une mise à jour de l'archéologie. Effectivement, il y a eu les Helvètes aussi, enfin voilà, j'en passe, mais à chaque fois, essayer de trouver une nouvelle thématique. Et là, avec Roger Setter, on avait très envie justement de travailler sur la civilisation minoenne, qui n'avait jamais encore été traitée dans un album d'Alix.
Et alors, on a le bonheur de retrouver ces fresques qu'on aime tous, hein, qui nous émeuvent à chaque fois et qui tapissent votre histoire.
C'est-à-dire que l'avantage de cet album, c'est qu'il me permet de montrer effectivement des choses formidables, que ce soit les fresques, l'architecture, les costumes ou encore les objets de cette époque. Mais c'est un travail que je fais depuis le début. Il est vrai que en Afghanistan, j'avais beaucoup moins de possibilités de montrer des choses aussi impressionnantes, que ce soit également sur Britannia, où j'ai compris aussi que le lecteur il avait envie de voir des colonnes, des temples, ce qui n'était pas possible sur cet album de Britannia. Donc là, j'ai vraiment la chance de pouvoir montrer des vues de Rome avec des choses inédites comme les jardins de Lucullus.
Oui, et puis la bibliothèque, la célèbre bibliothèque d'Asinius Pollion.
Alors, il y a ça, il y a le théâtre de Pompée, donc il y a beaucoup de choses. Dans le précédent album, Le Bouclier d'Achille, j'avais eu la chance de pouvoir travailler avec Jean-Claude Golvin et de reconstituer ce qui est assez inédit, la façade de la bibliothèque d'Alexandrie. Et donc, dans ce nouvel album, effectivement, j'ai pu me régaler, puisqu'on a énormément de fresques, on a énormément de représentations qui nous permettent de reconstituer au mieux cette civilisation minoenne qui fait tant rêver.
Oui, et de s'interroger aussi sur les bibliothèques qui sont assez courantes depuis l'époque d'Auguste pour ouvrir au public la connaissance livresque.
Oui, en plus pour moi c'est vraiment une aubaine de montrer des choses justement complètement inédites, donc que ce soit des bibliothèques ou également de l'architecture ou des costumes, des choses qu'on n'avait jamais vues justement dans la série Alix.
Oui, c'est vrai que là, on se balade beaucoup hein, dans cet album. Je voudrais juste, avant que je n'oublie, signaler qu'on peut voir, c'est assez rigolo, pour témoigner du succès d'Alix et notamment pour le bouclier d'Achille, une photo de Benoît Poelvoorde en compagnie de votre album.
Oui, c'est vrai. C'est une surprise de mon éditeur, en fait. Ça, ce sont des histoires qui se passent, qui se passent un petit peu. Donc, je suis pas au courant, mais c'est assez amusant, en effet.
Et alors, revenons sur votre scénariste avec qui vous travaillez depuis longtemps, Roger Setter. Ça fait combien d'albums que vous pratiquez ?
C'est le deuxième seulement, sur Alix. C'est le deuxième album avec Roger Setter. Oui, tout à fait. C'est pendant le confinement que lui avait l'envie, m'a montré son envie. Enfin, il m'a félicité pour l'album Les Helvètes, qu'il avait beaucoup aimé, qui était lui sur un scénario de Mathieu Breda. Et il avait beaucoup apprécié cet album, et puis il m'a dit qu'il aimerait bien faire un Alix. Et puis je lui ai dit, écoute, si tu as envie de faire un album d'Alix, moi j'avais une thématique en tête qui était le bouclier d'Achille, ce que nous avons fait, ce qui a plutôt bien fonctionné, et on a remis le couvert avec un deuxième album qui vient de sortir, donc Le Royaume Interdit.
Alors justement, je vais faire un petit saut dans le futur. Vous m'avez confié hors antenne que vous étiez déjà en train de travailler sur l'album suivant et que, alors peut-être avec ce même scénariste ou alors vous en changez ?
Alors déjà, en fait, c'est-à-dire qu'on le fait qu'il y a se caler aussi sur il y a les dates d'impression, il y a l'impression de l'album qui est aussi importante. Donc en fait, on est toujours un tout petit peu décalé par rapport à la sortie, ce qui fait qu'il est tout à fait normal que 5-6 mois plus tard, après avoir terminé un album, on en commence un autre. On peut pas se permettre de rester non plus trop longtemps inactif.
Alors donc, vous m'avez toujours pas répondu. Est-ce que c'est ce même scénariste qui travaillera sur Le Secret de César ou pas ?
Ce sera toujours avec un scénario de Roger Setter.
D'accord, très bien. Alors, vous travaillez à distance, j'imagine. Oui, comment ça se passe ?
Oh, ça se passe comme maintenant, je pense, beaucoup de collaboration. C'est-à-dire que Roger Setter, lui... dans l'Est et la coloriste est vraiment complètement dans le Sud. Donc, et moi, je suis sur Paris. Donc, voilà, je suis au milieu de la toile. Et puis, en fait, on s'envoie moi, je reçois un synopsis de Roger Setter. On se met d'accord sur le découpage, sur les thématiques, sur le découpage, le déroulé. Et une fois que tout ça s'est calé, Roger Setter, toujours avec l'accord du comité, peut développer son synopsis, case par case. Il me soumet un découpage par page. Et moi, je peux ensuite intervenir sur ce découpage à ma guise. Je peux retravailler le storyboard, revoir la mise en scène, quitte à déplacer des dialogues, quitte à en fusionner certains. Ensuite, les planches sont crayonnées, elles sont ancrées. Toutes ces étapes sont validées par le comité Martin à Bruxelles. Et ensuite, les planches que je réalise sur un papier dans les mêmes conditions que Jacques Martin à la même échelle sont ensuite scannées, numérisées et envoyées à la coloriste. Et là, il y a un véritable travail aussi avec la coloriste, c'est-à-dire que je fournis la documentation et des intentions d'ambiance, et puis je peux effectivement lui faire plusieurs retouches par page. Ça arrive assez fréquemment. On affine au maximum, et c'est vrai que elle s'appelle Florence Fantini. Elle avait travaillé avec moi sur un album qui s'appelait Saint-Pierre pour la collection.
Oui, pour lequel vous avez là aussi reçu un prix, hein, cet album.
Tout à fait. On avait eu un prix pour cet album. Et donc, je lui ai proposé de travailler dans un style beaucoup plus Sinclair. Et c'est quelque chose qu'elle avait plus ou moins fait auparavant, mais jamais dans le style de Jacques Martin, évidemment. Donc là, ça a été une formation pour apprendre justement comment avoir les codes. Voilà, les personnages sont plutôt en aplat. Les métaux, eux, bénéficient de certains effets de matière, que ce soit l'or, l'argent, comment traiter une colonne dans le style de Dalix. Et tout ça est en même temps basé sur les albums que l'on connaît, mais aussi une forme de synthèse que j'ai aussi développé à travers le temps, hein, pour affiner un petit peu le style graphique, puisque chaque album d'Alix, même dessiné par Jacques Martin, est différent l'un de l'autre, en fait. Donc il faut arriver à synthétiser tout ça. Et elle a complètement joué le jeu de vraiment travailler dans le style, et je pense que les lecteurs s'y retrouvent énormément, en fait. Hein. Je pense qu'il y a une véritable complémentarité entre le dessin et la couleur. Hein. Pour moi, ce serait inimaginable de laisser la couleur se faire sans que je puisse jeter un œil.
Alors, on reviendra sur la structure de l'album, mais justement, puisque vous parlez de couleurs, la première planche est toute de bleu, tandis que la toute dernière, à l'image du feu de la terre, est au contraire orangée, jaune, et parle de la colère volcanique. Donc, effectivement, le jeu des couleurs est extrêmement important.
Oui, tout à fait. Bon, on pourrait dire, voilà, un peu comme Alix et Enac. Hein. Enac, c'était un petit peu la lune, la nuit. Alix, c'est le feu aussi, c'est Apollon. C'est le côté plutôt lumineux, solaire. Donc effectivement, après, ce qui est intéressant, c'est de jouer sur une palette de couleurs au sein de l'album, de sorte à ce que le lecteur, quand il le feuillette, sa première impression ne soit pas une impression de quelque chose de trop homogène, et ça donne vraiment du rythme à l'album, d'autant plus que cette analepse de début, cette première planche, en fait, est une séquence que l'on va retrouver un petit peu plus tard dans l'album, et c'était important qu'elle soit identifiable au niveau chromatique.
Alors, on va marquer une petite pause musicale, histoire de continuer à créer cette ambiance antiquisante. Et on reparle tout de suite après, en rentrant un peu plus dans le détail, dans cet album qui est paru le 2 avril 2025, le tome 44 d'Alix. À tout de suite, Marc.
À tout de suite.
Alors nous voici dans la deuxième partie d'Antiquissimo sur Radio Alliance Plus, consacrée au Royaume Interdit, l'album 44 d'Alix, et c'est le dessinateur Marc Chailloux que nous avons le plaisir d'écouter aujourd'hui. Donc nous le retrouvons pour rentrer un petit peu dans le détail de cet album. On a déjà parlé de cette volonté de mettre en œuvre des lieux qu'on n'a pas souvent vus ni dans la BD ni ailleurs. J'ai dit le plaisir que j'avais eu de rencontrer au coin d'une page la bibliothèque d'Asinius Pollion et le personnage fascinant qui a vécu à la fois sous César et sous Auguste, donc un petit peu comme notre Alix d'ailleurs. On a évoqué le jardin de alors la bibliothèque, c'est sur l'Aventin, oui, les jardins de Lucullus sur le Pinchot. Et puis, il y a d'autres lieux emblématiques, le port d'Ostie, par exemple, qui est fort bien dessiné.
Le port d'Ostie, ça a été une première, puisque j'ai représenté le port d'Ostie à l'époque de Jules César, et non pas à l'époque de Trajan. Parce que l'image qu'on en a, qui est en fait, l'image la plus réputée, en fait, c'est la forme hexagonale en fait, du temple du port de Trajan. Et moi, je me suis vraiment renseigné pour savoir en fait à quoi ressemblait le port d'Ostie. Et je me suis rendu compte qu'il était complètement décalé justement par rapport à l'emplacement du port de Trajan. C'est d'ailleurs pas vraiment un port en fait à proprement parler.
Oui.
C'était plutôt un cours d'eau qui permettait, qui était très ensablé.
Oui, et qu'il fallait régulièrement désensabler hein, depuis l'empereur Claude. Voilà, oui.
Voilà la raison pour laquelle ils ont décidé de changer l'emplacement. Je me suis inspiré de choses tout à fait précises. Après, je me suis un peu piqué au jeu, comme à mon habitude. Le phare qui représentait, lui, est inspiré d'une mosaïque. Ensuite, il y a aussi, j'ai été poussé le détail, l'amphithéâtre qui était en pierre n'existait pas à l'époque d'Alix. Donc j'en ai fait un amphithéâtre en bois, puisque c'est tout à fait plausible.
Absolument,
que
oui.
En bois précède les amphithéâtres en pierre. Donc ça, ce sont des choses qui structurent la ville. Et puis on voit quand même un petit peu les quais de ski. Et c'est là où sont effectivement débarqués. Il y a la porte aussi, la porte de la ville, qui elle aussi existait à l'époque d'Alix. Parce qu'il faut savoir que le problème qu'on rencontre souvent avec Alix, qu'on ne rencontre pas dans les voyages d'Alix, là, traverse les époques, on part du principe que Alix peut vivre toute l'Antiquité. Sur les voyages d'Alix, si on veut respecter la chronologie, ça se passe relativement, en fait, ça se passe en gros sur 5 ans, un petit peu à l'époque de la guerre des Gaules. C'est vraiment la République romaine. Et en fait, à cette époque-là, on parle plutôt de colonisation, de conquête. Donc on n'est pas dans les écoles de mosaïque, on n'a pas encore édifié tous les monuments magnifiques qui arriveront plus tard. Donc effectivement, il y a très peu de monuments existants. Donc il y avait le port de Stig, donc j'ai pu reconstituer, et le théâtre de Pompée aussi. Ça c'est quelque chose qui existait à l'époque d'Alix, un peu comme j'avais eu la chance aussi dans le serment du gladiateur de représenter l'amphithéâtre de Pompéi.
Absolument, oui.
Tout à fait contemporain de l'époque d'Alix. Mais ces monuments-là sont assez rares, donc j'essaie vraiment de trouver un maximum, et quand ils sont là, je prends un plaisir fou à les mettre en scène.
Alors ce port d'Ostie apparaît dès la planche 2, mais on le voit assez régulièrement, et on oscille de lieux de navigation à d'autres assez couramment, parce qu'on parlera du temps après, il y a un jeu sur le temps, sur les proleps, hein, sur les décalages dans les époques assez faramineux. Donc là, il y a Ostie, il y a Rome, et puis je disais la navigation, il y a 9 planches tout entières consacrées à la navigation, parce que nos héros, notre héros, et qui va suivre l'héroïne Iphis, dont on n'a pas encore parlé, eh bien, se déplace vers la Crète.
Oui, en fait, il se déplace surtout vers, pas la Crète, vers au-delà de l'île d'Hercule, en fait.
Oui.
Donc, c'est beaucoup plus à l'ouest, justement. Ce sont, le scénario nous apprend, en fait, que ce sont des gens qui ont fui, en fait,
voilà.
Justement, pour, effectivement, ils ont subi le... Ils voulaient éviter justement de subir les foudres du volcan. Ils sont partis se réfugier beaucoup plus à l'ouest.
Et donc oui, effectivement, il va y avoir tout un fil conducteur avec cette recherche d'une première enquête, c'est-à-dire cette jeune fille dont on va dire maintenant un petit mot puisque c'est l'héroïne, qu'on découvre à la première planche et à qui on voit qu'il arrive des malheurs. Et puis aussitôt après, on la voit, décalage temporaire, on la voit devenue esclave.
Oui, mais ce qui était bien dans ce scénario, ce qui m'a plu, c'est que contrairement au bouclier d'Achille, je trouvais que on a tout de suite envie de savoir ce que devient ce personnage d'Iphis. En fait, déjà, on sait qu'il va faire quelque chose de terrible sur la première page, et dès qu'on la retrouve effectivement au milieu des animaux et lorsqu'elle est elle fait sa pirouette au-dessus du taureau, un peu comme le faisait.
Exactement. Et là, il y a un clin d'œil extraordinaire parce que quand on la voit dessinée par vous, et on pense tout de suite à ce qu'on connaît de la civilisation minoenne et de ses acrobaties au-dessus des taureaux. Et vous-même, vous faites un petit clin d'œil puisque le fameux Asinus Pollio dont je parlais tout à l'heure, il va montrer sur un manuscrit, sur un papyrus, une de ces scènes justement acrobatiques et tauromachiques.
Oui, c'est quelque chose que j'aime bien faire, en fait, c'est essayer de montrer dans le réel, en fait, des situations, des choses que l'on connaît par la gravure, par la peinture, c'est de les rendre vivantes. Mais bon, de temps en temps, c'est bon aussi de recoller un petit peu, de remettre la référence pour que les différents lecteurs, en fonction de leur connaissance, puissent apprendre des choses, en fait, ou s'y retrouver.
Oui, et alors il y a un jeu d'imbrication très subtil, je trouve. Alors, c'est à la fois très clair et très complexe, puisque si je reviens à mon héroïne, effectivement, la première enquête, c'est de savoir qui elle est, et elle-même cherche à retourner d'où elle vient. Et puis, au cours de l'enquête, on va s'apercevoir effectivement qu'elle ne sait pas elle-même qu'elle vient de... Et son peuple vient de beaucoup plus loin, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Elle a fui un autre royaume. Donc, ce qui fait qu'il y a plusieurs îles aussi qui vont se télescoper, si j'ose dire, sur ce fond-là de civilisation très, très ancienne.
Oui, ça reste de toute façon la même civilisation, même si on l'a transposée au large des Açores, ça reste de toute façon cette civilisation minoenne. Hein. Donc que ce soit au niveau des costumes, on a repris un petit peu le principe de Jacques Martin, ce qu'il avait fait un petit peu ou pour les Carthaginois ou pour les Spartiates, c'est-à-dire que ou même encore avec le cheval de Troie, c'est-à-dire de reprendre des personnages ou des civilisations qui, a priori, se sont éteintes, mais d'imaginer qu'elles continuent à vivre en autarcie, c'est souvent d'ailleurs très tragique, elles sont condamnées à mourir puisque le lecteur le sait par avance, puisque quand il lit l'album, il sait déjà que ces situations sont vouées à disparaître. C'est ce qui nous renvoie. Je pense que ce qui fait aussi la force des scénarii d'Alix, c'est justement cette idée qu'on sait que les choses sont un petit peu vouées à l'échec et on est vraiment dans la pleine tragédie au sens grec. Et effectivement, voilà, donc là, c'était l'occasion de
naviguer.
De
naviguer entre les civilisations et de naviguer sur des bateaux.
Et puis de pouvoir l'évoquer pleinement, hein, sans essayer de s'embarrasser, à se dire, voilà, on ne peut pas imaginer que des gens vivent comme ça. Jacques Martin avait bien fait dans le dernier Spartiate, des gens qui, avec la reine Adréa, vivaient à la vie en Spartiate. On sait bien que les Grecs ne s'habillaient plus comme ça à cette époque. Les costumes avaient considérablement évolué. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir utiliser ce superfuge pour vraiment voyager dans le temps, en fait, hein, découvrir cette civilisation qui, d'ailleurs, souvent, c'est une civilisation qui vit en autarcie et qui vit coupée du monde, ce qui est le cas dans cette île, hein, le Camarès.
Alors, justement, donc, ces voyages, en effet, et notre héroïne, je disais, première énigme, on veut savoir qui elle est, d'où elle vient, et elle-même veut retourner dans son royaume où elle était princesse. Et puisque vous évoquez les costumes, j'ai trouvé qu'ils avaient un petit look, ce peuple retrouvé sur la fin, parce qu'il y a deux parties, en grosso modo, dans votre histoire. J'ai dit que c'était à la fois compliqué et très simple à suivre. Je trouvais qu'ils avaient un petit look péruvien, hein, ces gens.
Ben, il n'est pas impossible qu'il y ait des échanges, hein, qui étaient, quand on regarde, effectivement, c'est très intéressant parce que j'avais trouvé effectivement qu'il y avait, en réalisant les recherches, en travaillant sur les couleurs, j'ai effectivement trouvé des analogies avec des peuples d'Amérique du Sud très très lointains. C'est pas impossible qu'il y ait eu des contacts, hein, c'est pas du tout impossible. Par contre, pour revenir aux personnages, tous les personnages de cet album et aux costumes, faut savoir que je me suis vraiment inspiré directement de fresques. C'est-à-dire que Iphis provient réellement d'une fresque, que ce soit sa coiffure très particulières, symboles, etc. Tout est directement inspiré de fresques. C'est-à-dire que le designer des costumes, c'est pas moi qui les ai inventés, c'est vraiment, j'ai vraiment repris ceux d'époque. Petit scoop, on voit aussi au début de l'album, on voit des pêcheurs arriver avec un marais. Oui. Il y a un enfant qui sort justement, qui tient des poissons dans sa main avec une coiffure un peu atypique. Il a comme le crâne rasé avec des mèches de cheveux qui ressortent, qui sont isolées. Ça vient vraiment de la fresque du pêcheur.
Oh, puis alors moi, j'ai adoré parce que j'ai vraiment une grande tendresse pour cette fresque de ce jeune homme qui tient des coryphènes, ces petits poissons.
Voilà. Je l'ai rendu réel en fait. C'est quelque chose qui... Voilà, je sais que il y a des choses comme ça qui m'obsèdent, comme là, je sais que la fresque du plongeur aussi, le Paestum, c'est quelque chose, mais j'aimerais bien le mettre en image pour de vrai, imaginer ce qu'a vu le peintre qui a représenté une de ses plus vieilles représentations, de l'époque antique, en fait. Fresque. Et voilà, donc c'est un jeu aussi avec le lecteur, c'est-à-dire que le lecteur, certains vont reconnaître ce pêcheur. Puis voilà, donc c'est vraiment une façon de
marrer. On a des petits coups d'œil et des coups de cœur très souvent en vous lisant, donc dans cette histoire qui est une construction circulaire. Je n'ai hélas plus le temps d'en parler parce que nous sommes arrivés au bout de l'émission. Je voudrais juste dire que, curieusement, mais c'est très bien, Enak et Alix sont presque au second plan et ce sont deux femmes, donc Iphis principalement, puis la méchante de l'histoire, la tante Dimitria, qui vont prendre la vedette.
Alors c'est pas nouveau dans Alix que les personnages aient un rôle très très fort, contrairement à ce que l'on croit souvent. Je suis obligé de répéter que souvent dans les albums d'Alix depuis même très longtemps, surtout les albums de cette époque, les femmes avaient toujours une place très importante.
Bien sûr.
Ici on apprend aussi que la femme justement est traitée à l'égal de l'homme dans la civilisation minoenne. Donc voilà, donc il y a vraiment vraiment
cette réalité historique. Mais je vous remercie beaucoup, Marc. Je suppose que tout le monde va se précipiter pour acheter cet album nouvellement paru. En tout cas, c'est une sacrée réussite et j'attends le suivant avec impatience. Au revoir.
Au revoir, bonne journée.
Bonne journée.